Eh bien, donc, j'ai le plaisir et l'honneur de présenter celui qui a eu la gentillesse de répondre à mon invitation, de prendre la parole devant notre académie, à savoir M. Laurent Fourquet, qui a eu la gentillesse de me communiquer une sorte de ce qu'il appelle une présentation, qui est d'un ton extrêmement personnel. Je vais résumer à grands traits. Donc, M. Laurent Fourquet est né en 1964. Il a été reçu au concours de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Il a passé l'agrégation de sciences sociales. Et parallèlement, il a suivi une scolarité à Sciences Po Paris et a été reçu à l'École nationale d'administration en 87, promotion Victor Hugo. Sorti de l'ENA comme administrateur civil à la direction du budget, il a suivi une carrière en France, mais également pendant 2 ans à Bruxelles, auprès de l'Union européenne. À Matignon, il a travaillé au secrétariat général du gouvernement comme conseiller pour les affaires économiques. En 2011, il a été nommé administrateur général des finances publiques à la toute jeune direction générale des finances publiques qui venait de se créer. Il a rejoint la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine et depuis février 2020, il est directeur départemental des finances publiques du département de la Marne. Laurent Fourquet a toujours voulu combiner l'action d'un haut fonctionnaire, avec la réflexion. Et de cette réflexion sont sortis pas moins de 4 ouvrages. À partir de 2011, donc il y a un tout petit peu plus de 10 ans, son premier ouvrage s'appelait « L'ère du consommateur ». Le consommateur comme figure centrale, pourrait-on dire, qui n'hésite pas à appeler une figure métaphysique, qui serait eh bien, ce que l'homme de nos sociétés contemporaines est essentiellement, ce qui le définit comme ce qu'il est. Il a l'habileté, je crois, de mettre en parallèle cette figure du consommateur avec celle du travailleur, qui est le titre d'un livre bien connu de Ernst Jünger, datant de 1932, Der Arbeiter. Ensuite, il a constamment approfondi son intuition de départ, d'abord en 2014 dans un livre au titre un peu sibyllin, Le moment M4. Puis, dans un livre dont le titre, je dois bien l'avouer, m'a particulièrement réjoui, en 2018, le christianisme n'est pas un humanisme. Je lui ai fait tout à l'heure, dans une conversation privée, remarquer que depuis l'an 2000, nous avons eu à peu près 10 d'ouvrages dont le titre se terminait par « est un humanisme ». Alors, il y a eu, par exemple, « Le monothéisme est un humanisme », mais également « L'athéisme est un humanisme », pas écrit par le même auteur. Bon. Eh bien, ça a été un soulagement immense pour moi de savoir qu'il y avait au moins une chose qui n'était pas un humanisme. Tout le reste, à peu près, l'étant. Donc, c'est un petit peu cela qui a décidé... Enfin, j'avais lu l'ère du consommateur auparavant, mais enfin, ça a décidé vraiment d'une grande amitié entre nous. En 2020, donc, il y a un peu, 2 ans, dans « Le raisin et les ronces », Laurent Fourquet a ajouté à la casquette de l'économiste, celle du moraliste, disons, en essayant de puiser dans le christianisme baroque et classique des ressources spirituelles capables de résister à ce que la figure du consommateur implique de nihilisme. Il continue à travailler sur des sujets de ce genre, enfin sur ce qu'implique la domination de la figure du consommateur, Et j'ai pensé à lui demander, dans le cadre de nos réflexions sur sauver à l'infinitif avec un point d'interrogation, ce que l'économie avait à dire sur ce sujet. À vrai dire, je dois bien avouer que j'ai un petit peu débordé du domaine de la langue française pour m'interroger sur le terme anglais « savings », les économies, donc le bas de laine, enfin les économies que l'on fait. Alors d'où le titre que je lui ai proposé, « Faire de l'économie, est-ce seulement faire des économies ?» Enfin, « Faire de l'économie, est-ce seulement économiser ?» Et je suis donc tout à fait désireux de l'entendre sur ce thème. Donc, Laurent Fourquet, vous avez la parole.
Merci à vous, Monsieur le Président. Merci d'abord de me faire le grand honneur de me recevoir dans cette enceinte prestigieuse. Je voudrais par ailleurs m'excuser auprès de vous à l'avance si ma voix vous parvient parfois un peu voilée, la faute à une pharyngite intempestive. Je vais essayer de tenir bon. Je voudrais aborder d'entrée donc, le sujet de la relation entre l'économie, et concrètement notre économie, et l'idée même de salut. Il peut paraître paradoxal de convoquer la notion de salut à propos de l'économie, qu'il s'agisse du système actuel d'échange de biens ou de la science qui s'efforce de comprendre ce système. Dans les deux acceptions du terme, l'économie n'est-elle pas en effet par excellence la réalité la plus étrangère à la notion de salut ? Si l'on prend le terme de salut au sérieux, celui-ci porte avec lui deux prérequis. D'une part, l'idée qu'il existe un état de l'âme ou des choses, d'ordre supérieur, et d'une supériorité qui n'est pas d'ordre quantitatif mais transcendante, quelque chose qui soit tout à la fois sublime et absolu. D'autre part, la perception que cet état n'est pas une constante de notre nature, qu'il suppose un mouvement, un chemin vers un ailleurs qui nous délivrera de la réalité limitée, fragile, décevante, qui est actuellement la nôtre. Or, l'économie est, semble-t-il, exactement à l'opposé de ces deux prérequis. D'une part, elle est une pratique matérielle, fondée sur l'échange des biens, et à ce titre, elle ne connaît pas d'autre supériorité que celle du nombre. Elle ignore, par principe, la transcendance, réduisant toute chose à une marchandise susceptible d'être quantifiée et échangée contre d'autres marchandises. Lorsque d'aventure, elle fait semblant d'exempter de ses lois une réalité qu'on lui a présentée comme sacrée, donc inaliénable, c'est en quelque sorte contre son gré, et parce que d'autres, les institutions par exemple, lui en ont intimé l'ordre. D'autre part, l'économie ne va nulle part. Elle connaît certes le mouvement, celui en particulier que l'on nomme croissance, mais ce mouvement ne nous conduit vers aucun dehors, vers aucune sortie du monde de l'économie. Parce que l'économie refuse ainsi toute perspective de salut, elle est dans son essence une pratique et une science du désenchantement du monde. Sa perception spontanée de l'univers est celle du dur calcul, de l'intérêt, du prosaïsme du besoin et de la matière, de l'échange et de ses lois d'airain. Dans la perception instinctive que nous en avons, l'économie est l'ennemi spontané du rêve, de la gratuité et de toutes les forces que nous avons pris l'habitude de regrouper sous le terme de romantisme. L'économie marche avec le concret, le réel, l'effectif. Sans doute est-ce pour cela qu'elle a accompagné le processus occidental de désenchantement du monde, à la fois à travers le développement matériel de l'Occident et la diffusion du cadre mental de celui-ci, fondé sur l'étouffement progressif mais inexorable de la transcendance. L'économie est ainsi, peut-être, le domaine où la modernité occidentale réalise le mieux son essence, menant à bien l'intégralité de son programme, de sorte que la science économique joue, dans notre monde, le rôle de la philosophie dans l'Antiquité gréco-romaine ou de la théologie au Moyen-Âge. On entend dire parfois que, à côté de cette économie, matière et science du désenchantement dont je viens de brosser le portrait un peu caricatural, il existerait une lecture morale de l'économie visant, à travers la détermination de la bonne économie, guillemets, à faire le bonheur des hommes. Mais il y a loin de la morale au salut. Une pratique, une idée, peuvent être morales sans convoquer les deux prérequis, l'absolu et le cheminement vers celui-ci, dont j'indiquais plus haut qu'il me paraissait caractériser la notion de salut. Que l'économie soit ou non morale, elle n'en reste pas moins radicalement étrangère à l'idée de salut, considérant au fond que cette idée appartient à un âge périmé de l'humanité, l'âge où l'on croyait encore qu'il est des réalités autres et supérieures au monde matériel et à ce qu'il impose en termes de calcul et de recherche de l'intérêt. L'économie considère, au fond, qu'elle a liquidé le salut avec toutes les vieilleries idéalistes du passé, en imposant définitivement son monde, qui est le monde. Pourtant, les choses ne sont peut-être pas aussi simples. L'économie n'est peut-être pas aussi radicalement délivrée qu'elle le croit de la métaphysique et des songeries qui, selon elle, accompagnent celle-ci. Mais, pour le savoir, il n'existe qu'un seul chemin. Analyser ce qui, dans l'économie, tient lieu de vérité, puisque c'est la vérité qui nous ouvre sur la métaphysique, et comprendre ce que cette vérité, selon l'économie, nous dit des fondements de celle-ci, dévoilant ainsi le Dieu caché qui, peut-être, régit la scène. Quelle est la forme que prend le concept de vérité en économie ? Une relecture des grands ancêtres de la science économique, depuis Aristote, démontre qu'à l'origine, la vérité en économie s'est incarnée dans la notion de valeur. Dans mon livre, Le Moment M4, que vous avez mentionné, Monsieur le Président, j'ai essayé de montrer que la principale, sinon la préoccupation exclusive des premiers théoriciens de l'économie, était de déterminer la juste valeur d'un bien. Parce que chaque bien avait sa valeur en soi, réelle, véridique, inaltérable, et que la finalité de l'économie consistait à identifier cette valeur et à la nommer. Quand je parle de valeur, je ne parle pas de prix. Je ne veux surtout pas en parler, car, pour ces premiers économistes, le prix était une variable accidentelle, incidente et souvent déstabilisante, dans la mesure où elle brouillait en quelque sorte la reconnaissance de la valeur véridique du bien, créant une confusion entre spéculation et économie, entre économie et ce qu'Aristote appelle la crémastistique. Pour ces théoriciens, dont Aristote est le grand ancêtre, il existe en effet une différence radicale entre spéculation et économie. Le but de la spéculation consiste à dégager un profit en jouant sur les prix. Le but de l'économie est au contraire de se débarrasser du prix en opérant celui-ci de sa ductilité pour retrouver la stabilité essentielle de la valeur, seule apte à dire la vérité économique du bien. Or, dans les faits, toute l'histoire de l'économie, comme pratique et comme science, a consisté en un basculement, lent mais irrémédiable, de la perspective de ces premiers théoriciens de l'économie pourrait aboutir à une approche radicalement inversée, la nôtre, selon laquelle seul compte économiquement le prix d'un bien, alors que la valeur en soi de celui-ci est devenue une brume évanescente, n'intéressant plus personne ou presque. Aujourd'hui, la croyance en une valeur réelle intangible d'un bien immobilier par exemple, est considérée comme une représentation parasite, susceptible de freiner la mécanique bien huilée de la fluctuation du prix, inhérente au marché. Cette représentation parasite, coûtant d'ailleurs en règle générale, cher à l'agent économique qui s'y cramponnerait et se refuserait de se conformer à la norme désormais dominante, celle du prix. J'ai, dans mon ouvrage précité, distingué quatre moments, d'où le titre de mon livre, effectivement un peu sibyllin, rythmant cette chute de la valeur et cette ascension du prix dans l'empiré de l'économie. Un premier moment, qui va grosso modo d'Aristote jusqu'au physiocrate, durant lequel l'unique objectif légitime assigné à l'économie consiste, comme je l'ai dit, à déterminer la juste valeur des choses et à ne pas s'en laisser compter par le prix. Cette première période correspond globalement à un système économique fondé sur la terre et l'exploitation de celle-ci. Dans un tel modèle, où les échanges sont rares et l'économie largement organisée autour de la recherche de l'autosuffisance par de petits groupes d'individus, la valeur des biens est relativement stable et les périodes de fluctuation de prix, liées par exemple à la dévaluation de la monnaie, s'apparentent effectivement à des cataclysmes déstabilisateurs. On comprend que, dans un tel contexte, les théoriciens aient privilégié la stabilité de la valeur et perçu la fluctuation des prix comme un phénomène aberrant et une menace pour l'équilibre économique d'ensemble. Un second moment, qui va d'Adam Smith jusqu'à Marx, et durant lequel la valeur est toujours privilégiée aux dépens du prix, mais passe désormais par le truchement d'une nouvelle notion, le travail, qui seul est apte à exprimer la juste valeur d'un bien. Dans un monde confronté, pour la première fois, au phénomène de la croissance économique et à ses corollaires en matière de fluctuation des prix, il n'est plus possible de faire comme si l'économie devait se limiter à identifier et nommer la juste valeur des choses. Les théoriciens de l'économie s'efforcent encore, toutefois, de sauver la valeur en déterminant, au sein de cet univers en mouvement, un principe de stabilité à partir duquel il serait possible de retrouver la vraie valeur, pourvu que l'on traverse les apparences faciales du prix officiel des biens. Ce principe de stabilité, c'est le travail. Dans un contexte où le travail manuel de masse est effectivement le déterminant de base de la production des richesses. Un troisième moment qui émerge à la fin du XIXe siècle avec ce que l'on a nommé la révolution marginaliste des économistes néoclassiques développe une approche radicalement nouvelle de la valeur. Les théoriciens de la valeur travaillée en restaient encore à une perception résolument objective de la valeur. Certes, celle-ci était désormais voilée dans les échanges commerciaux par l'affichage des prix officiels, mais il restait possible, au moins théoriquement, de déterminer la valeur véritable d'un bien à partir du travail humain requis pour le produire. Avec les économistes néoclassiques, cette possibilité d'objectiver la valeur d'un bien se fracture. La valeur ne peut plus être désormais que subjective. Autrement dit, elle dépend de la perception subjective par chaque agent économique, de l'intérêt d'un bien pour lui et lui seul, à partir notamment de la comparaison entre le coût du bien et le degré d'utilité qu'il espère en obtenir. Durant ce troisième moment, la valeur est en quelque sorte privatisée. Elle ne peut plus nommer les biens dans l'absolu pour ce qu'ils valent vraiment, parce que le bien n'a pas de valeur en soi. Il ne vaut que pour soi, comme dirait Hegel, pour l'argent, pour l'agent qui décide de la valeur qu'il choisit de lui conférer. Parallèlement à cette subjectivité microéconomique de la valeur, se développe une approche macroéconomique qui, à travers la détermination de grands agrégats de comptabilité nationale, s'efforce d'objectiver la richesse, donc la valeur d'une économie nationale. Toutefois, si la valeur d'ensemble d'une économie peut s'appréhender par les statisticiens, la valeur en soi d'un bien donné n'a plus de sens, puisqu'elle dépend du calcul de chaque agent à un moment donné du temps, et puisqu'il y a ainsi autant d'estimations de la valeur d'un bien qu'il y a d'agents économiques. Enfin, vient le dernier moment qui est le nôtre, et que je fais émerger de façon quelque peu symbolique, avec la décision du président Richard Nixon le 15 août 1971 de suspendre la convertibilité en or du dollar, effaçant ainsi le dernier lien rattachant le système économique dans son ensemble à une réalité physique stable. Durant ce nouveau moment de l'histoire de l'économie, la question de la valeur cesse tout simplement d'être posée, ou, plus exactement, elle ne peut plus être posée qu'à partir du prix. Ce qui constitue un renversement intégral par rapport à l'approche des premiers théoriciens de l'économie politique. Souvenons-nous que ceux-ci avaient pour ambition d'effacer les prix pour retrouver la juste valeur intangible d'un bien. À l'inverse, dans le grand système de l'économie politique moderne, le prix est la valeur du bien. Quelles que soient ses fluctuations, et l'on sait qu'elles peuvent être majeures,
pouvant varier en un laps de temps réduit du zéro à l'infini et de l'infini au zéro dans le cas du phénomène de bulle spéculative, le prix exprime en toutes circonstances, pour les agents économiques, la vraie valeur du bien, celle que l'on ne peut défier. Bien sûr, des restes de notre cerveau économique reptilien demeurent encore. On est choqué vaguement, pour prendre un exemple récent, par le prix du transfert de Lionel Messi, au nom de ce que l'on ne parvient plus à nommer précisément, mais qu'on l'on ressent comme un souvenir incertain du monde d'avant, invoquant péniblement des notions de décence, de bon sens, dont nous ne savons plus trop ce qu'elles signifient. Mais ces réflexes devenus inutiles s'effacent rapidement devant cette conviction simple, puisque son transfert entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain a pu s'opérer à ce prix, c'est donc bien que Lionel Messi, ou du moins son talent footballistique, vaut ce prix. Nous retrouvons, à partir de cet exemple tiré d'une actualité récente, la représentation de l'économie qui, chez nos contemporains, est désormais la seule représentation possible et pensable. Le prix est devenu l'unique instance de détermination de la valeur véridique des choses, avec cette conséquence importante. Le prix étant susceptible de changer constamment, la valeur des biens doit, elle aussi, pouvoir changer constamment. Notre époque économique s'est ainsi accoutumée à croire qu'il est parfaitement normal et sans doute même souhaitable que la valeur change presque constamment et parfois dans des proportions considérables. Prenons un nouvel exemple, celui du marché immobilier des grandes métropoles, où très souvent le prix du mètre carré a crû de façon très significative en moins de 2 décennies, sans que personne ou presque ne soit perturbé par cette évolution. Encore, cet exemple est-il presque modéré. Songeons aux variations quotidiennes et parfois spectaculaires des actifs financiers sur une période très réduite, parfois de quelques heures, voire de quelques minutes, et donc plus personne ne questionne la légitimité. Pour tous ou presque, il est normal désormais que la valeur des actifs varie ainsi. Mais précisément, en quoi est-ce normal? Ou peut-être faut-il formuler la question autrement. Pourquoi estimons-nous spontanément qu'il est normal, naturel, de penser ainsi l'économie? Il ne fait pas de doute, en effet, qu'il y a quelques siècles, cette « normalité » entre guillemets aurait été qualifiée d'aberration ou même de pure folie. Du reste, nos derniers réflexes de réticence à l'égard de cette logique que j'ai évoquée plus haut, notre ressenti spontané, démontrent bien qu'au fond, il n'y a là rien de normal. Pourtant, nous résistons de toutes nos forces à ce ressenti spontané afin de nous conformer chaque jour davantage au nouveau catéchisme de l'économie. Pourquoi ? Et pourquoi avons-nous autant besoin de croire en ce que nous croyons ? Ma conviction est que nous tenons à cette croyance, que nous lui attachons un tel prix, parce que d'elle dépend l'efficacité d'ensemble de notre système. Je me sépare ici d'une lecture postmoderne de notre système économique qui verrait dans l'effacement de la valeur et son absorption par le prix un affranchissement bienheureux des normes transcendantes, une libération des sujets économiques qui auraient ainsi toute faculté d'inventer la valeur qui leur chante et de communier dans le culte de la gratuité et du jeu. Je crois que l'effacement de la valeur ne constitue aucunement une victoire de la gratuité et qu'elle est même tout le contraire, c'est-à-dire le triomphe de l'intérêt et du calcul. L'absorption de la valeur par le prix, autrement dit la capacité à associer pour tout bien économique n'importe quelle valeur à ce bien, est ce qui est le principal à rendre crédible cette association, est devenue la condition déterminante de la rentabilité d'ensemble de notre système économique. Pour se convaincre de cette affirmation, il faut introduire un concept auquel je me suis intéressé plus particulièrement dans mes différents ouvrages, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la consommation. À première vue, il s'agit d'un concept économique bien connu et bien maîtrisé, tant par la théorie microéconomique que par la théorie macroéconomique, une notion qui, comme sa sœur siamoise, l'épargne, ne réserve plus aucune surprise. Pourtant, Au-delà des propos visant à en faire une notion économique parmi d'autres, la consommation m'apparaît comme le phénomène majeur, la variante déterminante non seulement de notre système économique, mais plus largement de notre société. Pour cela, il faut toutefois élargir notre point de vue et considérer la consommation non pas seulement comme une donnée économique, mais comme une donnée anthropologique, un fait social total, global, pour reprendre la terminologie employée par Marcel Mauss dans son essai sur le don. J'appelle consommation l'appropriation des choses ou de leur usage par un agent économique à des fins intéressées, c'est-à-dire d'accroissement de son bien-être individuel, lequel s'exprime notamment par un pouvoir accru sur le reste du monde. J'ai défendu dans mon premier livre l'idée selon laquelle nous étions désormais entrés, en Occident du moins, dans l'ère du consommateur. Que faut-il entendre par là ? Cela signifie que l'occidental contemporain ne connaît plus que des rapports de consommation dans tous les domaines de l'existence et avec tous les êtres et les choses qui l'entourent, y compris d'ailleurs avec lui-même, saisi comme objet de sa consommation. Il ne sait plus percevoir le monde autrement qu'en le consommant. Les exemples de cette mutation anthropologique majeure sont innombrables. Cela concerne les institutions qui ont cessé d'incarner une autorité verticale pour devenir de simples prestataires de services. C'est le cas de la politique, perçue de plus en plus non plus comme une aventure collective engageant le destin de la nation, mais comme un marché où des entrepreneurs se font concurrence pour satisfaire la demande des électeurs. Mais c'est aussi le cas en ce qui concerne le couple, la relation au corps, le culte du bien-être, l'engouement pour les spiritualités douces, etc., etc. Et, pour consonner ironiquement avec le début de mon propos, la recherche d'un salut, mais qui n'est plus et ne peut plus être qu'un objet de consommation, car le salut est dans la consommation. Nos sociétés se réduisent ainsi de plus en plus à d'immenses centres commerciaux, des malls, où il n'est plus aucun domaine de l'existence humaine, qu'elle soit individuelle ou collective, qui échappe à la domination exclusive de la consommation, laquelle suppose un sujet, un objet réductible au statut de marchandise, et entre l'un et l'autre un lien que l'on nomme transaction, qui n'a pas besoin d'être formalisé et qui permet au sujet de s'approprier l'objet, ou du moins son usage. Si l'on rapporte cette réalité massive de la consommation, qui, comme tous les systèmes totalitaires, refuse la moindre limite à notre système économique fondé sur l'effacement de la valeur par le prix, on comprend vite l'interdépendance entre les deux dispositifs. D'abord, parce qu'en réduisant la valeur à une simple détermination d'un prix, notre système économique conforte le consommateur dans sa conviction que toute chose est réductible à sa forme marchandise affectée d'un prix, comme dirait Marx, et que cette marchandise peut s'obtenir par le biais d'une transaction commerciale. Que des biens aient une valeur en soi, qui ne passe pas par la médiation d'un prix, qu'il soit d'une essence plus haute, plus digne que le prix, parce qu'il relève par exemple de ce que l'on nommait jadis le sacré, voilà qui aujourd'hui dans notre monde est devenu incompréhensible. Il faut au contraire, pour qu'une chose ait de la valeur, qu'elle consente à s'aliéner sous la forme d'un prix, puisque désormais, seul ce qui a un prix compte. De cet axiome occidental contemporain, deux conséquences se déduisent. D'abord, l'effort continu, agressif, de nos sociétés, qui constitue le seul mouvement significatif de notre époque, pour tout attraire dans le champ du prix, y compris et surtout les réalités d'ordre spirituel, pour contraindre chacune de ces réalités à jouer le jeu de la transaction et du prix, explicite ou implicite, que celle-ci suppose. Cela vaut aussi, et peut-être surtout, pour ce qui se prévaut de la « gratuité » du « désintéressement » et qui doit comprendre, une bonne fois pour toutes, que, à notre époque, la gratuité a un coût. Cela vaut également pour tous les appels tellement en vogue à l'heure actuelle à une consommation éthique, durable, responsable, qui se transforme mécaniquement en nouveaux marchés, nouveaux profits, nouvelles incitations à consommer propre. Car à notre époque, la morale, c'est de l'intérêt, et l'intérêt, c'est de la consommation que l'on crée et que l'on stimule pour dégager du profit. La seconde conséquence vaut pour les forces qui s'obstinent à sérieusement refuser de jouer ce jeu en se monnayant, parce qu'elles s'obstinent à affirmer leur caractère supérieur, transcendant, sans prix. Dans ce cas, la seule solution pour l'ordre moderne consiste à étouffer ses forces, soit en les discréditant, soit en faisant le silence, un silence absolu, glacé sur elles. Au-delà de ce premier service rendu par notre système économique aux consommateurs, l'absorption de la valeur par le prix présente également l'avantage d'officialiser la valeur des marchandises, donc de nos désirs, puisque, au bout du compte, les marchandises ne sont rien d'autre que du désir humain réifié, socialisé. Dans des sociétés comme les nôtres, éclatées, dispersées, où toutes les anciennes solidarités ayant disparu, chacun se retrouve irrémédiablement seul, le marché, qui chaque jour donne le cours exact de nos désirs, constitue la seule instance de socialisation dans notre monde et, au fond, l'unique langage commun qui nous rappelle que malgré tout, les autres existent. C'est le marché, et lui seul, qui discipline les consommations individuelles et l'anarchie de l'explosion des désirs. À cet égard, ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas, comme on le dit parfois, une société de marché. Nous sommes d'abord un marché qui est aussi une société. Mon approche de la relation entre valeur-prix et consommation a été jusqu'à présent purement statique. Mais cette relation est également dynamique. En pratique, en effet, la consommation, qui constitue la passion exclusive de notre monde, n'est pas stable dans le temps. Plus l'on consomme, plus l'on a besoin de consommer, en raison d'une règle psychologique simple. La consommation, quelle que soit la nature de ce que l'on consomme, est inapaisée. Au bout d'un moment, la jouissance consommatrice de n'importe quel objet s'affadit. Or, le besoin de consommer est toujours là. Il y a donc toujours une déception dans la consommation. Et l'on peut dire, sans crainte du paradoxe, que le monde de la consommation, qui est en apparence celui de la jouissance gourmande du monde, est en réalité le monde de la frustration obsédante. Nul n'est satisfait de sa consommation, parce que chacun souffre d'une diminution continue de la jouissance de l'objet de consommation qui, l'instant précédent, cristallisait tout son désir. Il faut donc, pour échapper à cette frustration tenace, ou croire lui échapper, aller toujours plus vite, toujours plus loin dans la consommation du monde, consommer mieux et consommer plus, en inventant sans cesse de nouveaux objets de consommation, de façon que l'agent consommateur oublie sa frustration en se replongeant immédiatement dans une consommation nouvelle, laquelle s'avérera à nouveau décevante, mais cédera la place à un nouvel objet de consommation, et ainsi de suite. La société de consommation est donc nécessairement une société hystérique, où le volume de consommation globale et individuelle doit croître de plus en plus vite pour faire oublier la frustration qui, elle aussi, croît avec le temps. L'exigence de croissance exponentielle de la consommation impose de dures contraintes à notre système économique, qui doit en permanence inventer les moyens de fournir à chaque individu la possibilité de consommer toujours davantage le monde à un prix acceptable. Car, précisément, la pérennité de notre monde est à ce prix. Si la vitesse de consommation ralentissait, ne serait-ce que légèrement, le poids de la frustration écraserait le système tout entier. Comment dès lors celui-ci s'adapte-t-il à cette contrainte ? La réduction de la valeur au prix et la contrainte imposée à chaque chose d'être accolée à un prix déverrouillent toutes les inhibitions, autorisant les marchands du temple à transformer absolument tous les domaines de la vie, sans exception, en marchandises consommables. Plus la transformation s'opère sur un bien jadis protégé ou révéré, car considérée comme sacrée, plus celle-ci s'avère rentable, car la consommation en est, comme pour tout bien rare et neuf, d'autant plus appréciée. Songeons notamment, entre mille autres exemples, à la conception biologique de l'être humain, qui devient, de plus en plus, un bien de consommation. Autrement dit, un objet marchand, façonné et piloté, afin d'organiser au mieux, dans une optique de pure consommation, le moment de la conception et le type de produit humain qui est fabriqué, faisant ainsi de la naissance d'un nouvel être humain non plus un don, mais le terme d'un processus industriel gouverné par une logique de gestion. Cette logique de marchandisation généralisée du monde que nous subissons de plein fouet, sans toujours parfaitement la comprendre, ne se satisfait pas de faire rentrer sous la houlette de la gestion calculatrice l'univers et la vie dans leur totalité. Elle fabrique en permanence des besoins, et des besoins qui soient, autant que possible, dépourvus de lien avec un objet physique tangible, concret, car la fabrication technique d'un tel objet représente un coût venant minorer la profitabilité du besoin de consommation que l'on crée. Ainsi, au stade actuel de l'économie de la consommation, l'effort principal porte directement désormais sur la psyché humaine, de telle sorte que celle-ci devienne de plus en plus et exclusivement une psyché de besoin. Autrement dit, que l'homme se laisse à raisonner tout entier à partir du besoin. Reconfigurer l'homme comme simple addition de besoins, c'est agir par exemple pour que l'existence se ramène dans notre représentation du monde à une somme de droits qui nous sont dus. Droit notamment de se sentir bien, et ça tombe bien précisément, parce qu'il existe un marché en pleine expansion de coachs et de méthodes plus ou moins fumeuses pour satisfaire ce droit ou prétendre le satisfaire. Et encore une infinité d'autres droits pour lesquels notre monde est bien fait. Il existe des prestataires qui sont disposés contre rémunération à nous fournir une marchandise prenant la forme d'un droit satisfait. Ce processus est effectivement infini, car on peut toujours inventer de nouveaux droits dès lors que l'on est disposé à réduire la vie humaine à une somme de droits, trouve toujours sa traduction économique dans la mesure où la valeur étant affaire de prix, il est possible, pour peu que l'on sache vendre, de donner de la valeur à tout, et en particulier au n'importe quoi. Valoriser le rien, faire du néant, et en particulier du néant spirituel, un bien coûteux constitue le nec plus ultra de notre système, sa réussite ultime. Le rien, en effet, ne nécessite aucun coût de production. Il se trouve en abondance, et le seul effort qu'il requiert est d'être un peu ripolliné pour ressembler à un tout plein de sens en particulier. Voyez par exemple, aujourd'hui, tout le succès des marques, des sigles, des images positives, ces presque rien immatériels qui peuvent valoir si cher. Ça m'est l'occasion d'ailleurs de rendre hommage à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Goscinny, qui dans son album d'Astérix, Obélix et compagnie, à travers en fait la valorisation du menhir qui ne sert à rien, a parfaitement compris l'un des fondements majeurs de l'économie de la consommation. Loin d'être le domaine de l'objectivité et de la matérialité des choses, comme nous le disions d'entrée, l'économie contemporaine est ainsi de plus en plus le règne de la fantasmagorie, de la subjectivité la plus débridée, permettant de donner le plus de valeur à ce qui peut-être en a le moins, et réciproquement, parce que cette plasticité, cette ductilité de la valeur sont les conditions essentielles pour que le système respecte la contrainte, qui avec le temps devient de plus en plus délirante, de croissance exponentielle, de la consommation du monde. Cette domination du fantasme, du signe, vaut, en particulier pour ce qui se présente habituellement comme la réalité économique, la plus froidement prosaïque, la plus dénuée d'imagination, je veux dire l'argent en tant qu'argent. Certes, l'argent est bien d'un côté ce carburant concret, exactement mesurable, ô combien, de notre monde, sans lequel celui-ci ne saurait perdurer. Mais il est aussi le lieu de l'illusion maximale. Prenons le cas des bulles spéculatives, comme la bulle Internet au début des années 2000, ou bien celle que l'on a connue quelques années plus tard aux États-Unis et dans quelques autres pays sur le marché de l'immobilier, et qui a explosé en 2008 lors de la crise des fameuses subprimes. N'importe quel observateur doté d'un minimum de bon sens et non formaté par notre système d'équivalence entre prix et valeur aurait conclu rapidement à chaque fois que le prix des actifs considérés était totalement déconnecté de la réalité. Pourtant, le consommateur moderne et ses guides supposés avertis, s'appuyant sur des outils de calcul sophistiqués, ont été incapables de ce raisonnement de simple bon sens. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas croire à cette déconnexion et à la chute inéluctable qui devait s'en suivre. Et s'ils ne voulaient pas y croire, c'est parce que le prix, pourtant purement virtuel, de leurs biens, autrement dit l'argent en tant qu'argent, en tant que signe, était devenu pour eux un bien de consommation. La hausse continue du prix de l'immobilier, donc l'appréciation de leur patrimoine, même si cette appréciation était purement théorique et latente, constituait aussi un accroissement de leur consommation du monde. Consommation étrange, paradoxale, puisque sans traduction matérielle tangible pour la plupart d'entre eux. Mais c'est l'essence même du phénomène contemporain de la consommation, d'être de plus en plus déconnecté de tout élément matériel pour ne plus être qu'une jouissance de pur pouvoir, la sensation pour l'individu que sa puissance d'exister est indexée sur l'appréciation de son patrimoine, l'argent devenant le vecteur de cette volupté, sans qu'il ait plus besoin de se réaliser dans un bien quelconque. Nous voici donc conduits à un constat qui est exactement à l'opposé de notre réflexion de départ. Nous postulions que l'économie, en tant que pratique et en tant que science, est une matière dure, inflexible, délivrée de toutes les songeries métaphysiques. Or, nous découvrons que l'économie contemporaine, loin d'être une pratique et une science des échanges entre des biens objectifs, est en réalité de plus en plus une objectivation de fantasmes, et que cette objectivation pour opérer dépend elle-même d'une croyance parfaitement arbitraire, la conviction selon laquelle le prix des choses exprime parfaitement, toujours et partout, la valeur de celle-ci, quand bien même ce prix est amené à évoluer, et parfois considérablement, dans un laps de temps parfois très bref. Il en est ainsi parce que l'économie n'est rien d'autre qu'une projection dans le domaine de l'échange des croyances générales qui irriguent nos sociétés et notre époque. Reprenons les aléas de la valeur dans le champ de l'économie, tels que nous les avons décrits, et appliquons ces aléas à une autre notion qui, par sa généralité, dépasse les frontières de l'économie pour irriguer l'ensemble des actions humaines, la notion de vérité. Nous serons alors frappés par la similitude des destinées, de la valeur et de la vérité. Nous vivons une époque, en effet, où, selon l'opinion dominante, la vérité en soi, la vérité majuscule qui a dominé pendant tant de siècles la métaphysique occidentale, n'existe plus. Elle est même sommée de ne plus exister, dans la mesure où elle est présentée comme une norme intolérante et écrasante, une contrainte pesant sur des sujets autonomes dont la liberté ne saurait se concilier avec l'existence d'une vérité les transcendant, quel que soit d'ailleurs le nom que l'on donne à cette vérité. À la place de celle-ci, ne subsistent plus que des micro-vérités, pulvérisées et privatisées, c'est-à-dire ramenées à l'aune du sujet individuel qui fabrique sa vérité en fonction de ses désirs et de l'évolution de ceux-ci dans le temps et dans l'espace, de sorte que la vérité n'est plus que le produit d'une relation du sujet avec lui-même, cette relation étant susceptible, à chaque instant, d'évoluer et même de s'inverser. Qu'il s'agisse de religion, de politique, d'esthétique ou de rapport à notre corps et au plaisir, nous ne pouvons plus concevoir la vérité hors de l'intimité du moi. C'est ma vérité, et elle me suffit parce qu'elle est ma vérité. Gardons-nous cependant de prendre une telle affirmation totalement au sérieux et de croire que cette vérité intime, perpétuellement subjective, est effectivement l'exercice par le sujet de sa liberté pleine et entière. Ce que chacun de nous nomme sa vérité peut bien se différencier en apparence de la vérité selon notre voisin. Mais par-delà les apparences, précisément, ma vérité et celle de mon voisin pointent dans la même direction, celle résultant du processus qui, dans quelque domaine que ce soit, fait se sentir bien. Autrement dit, en termes moins triviaux, accroît notre jouissance consommatrice du monde. Nous n'élisons pas notre vérité parce qu'elle est vraie. Nous l'élisons parce qu'elle nous plaît, et elle nous plaît parce qu'elle accroît notre consommation du monde, c'est-à-dire aussi notre pouvoir sur celui-ci. Notre vérité peut bien muter en fonction de nos désirs qui, quant à eux, n'arrêtent pas de bouger. Son orientation demeure intangible. C'est toujours le sens de notre intérêt, compris comme consommation, qui oriente notre vérité. Par ailleurs, nous ne vivons pas seuls. Nous sommes en permanence confrontés au spectacle des autres et de leur recherche obsessionnelle, identique à la nôtre, de l'intérêt. Or, il s'avère que certaines formes que revêt l'intérêt, l'acquisition de tel ou tel bien matériel, par exemple, ou encore tel ou tel usage du corps, sont partagées par une grande majorité de sujets. Cet état de fait constitue, pour le sujet individuel, une information qui est aussi une puissante incitation à orienter son intérêt dans le sens de la majorité. Dans un monde où l'intérêt égoïste est la seule passion collective, la forme dominante revêtue par l'intérêt, qu'il s'agisse d'un nouveau téléphone portable ou des signes physiques de la séduction, devient fatalement, par effet de contagion, l'obsession de tous les sujets, transformant ainsi notre société, soi-disant fondée sur la liberté et l'autonomie, en son exact contraire. Une société où tous finissent par se ressembler, à la fois dans leur passion et dans l'objet de leur passion. Enfin, le caractère intangible et, disons-le, sacré de l'intérêt égoïste subjectif dans notre monde démontre clairement que, quoi que nous croyons ou voulons en croire, il existe encore dans nos sociétés des réalités d'ordre général qui ressemblent à la vérité, au sens ancien que l'on donnait jadis à la notion de vérité. Simplement, comme nous sommes effarouchés par le risque pour la liberté du sujet de l'existence de vérités générales transcendantes, nous préférons donner à ces vérités un autre nom. Généralement, quand on ne veut pas convoquer le concept de vérité tout en voulant exprimer des réalités universelles, valables partout et toujours, on parle de nature. De fait, dans notre monde, il existe de nombreux faits de nature présentés comme tels. D'une part, l'existence de sujets individuels, autonomes, parfaitement capables d'effectuer des choix libres et éclairés. D'autre part, la réduction de l'univers à un champ de marchandises passives, dénué de toute valeur dès lors que nous ne nous intéressons pas à elle. Ajoutons un dernier fait de nature, la légitimité en soi de l'échange, de sorte qu'à partir du moment où un objet est physiquement susceptible d'être échangé, et pourvu que les conditions de la transaction respectent une liberté formelle, l'échange de ce bien est légitime et ne saurait être questionné. Peut-être perçoit-on mieux, au terme de cette présentation, à quel point notre logique économique et notre logique tout court, notre vision du monde, se confondent. Valeurs et vérités sont devenues de simples produits de désirs émis par des sujets qui n'ont pas d'autre finalité que la consommation du monde et, si j'ose dire, une consommation toujours davantage consommatrice. Mon désir est toujours véridique parce qu'il est mon désir. La valeur d'un bien se confond toujours avec son prix parce qu'à ce prix, je peux espérer consommer le bien que je désire. Ces deux affirmations se rejoignent parce qu'elles ne sont dans notre monde que deux manières différentes de signifier la même réalité. Il en est ainsi, dans la mesure où valeur et vérité ne sont plus aujourd'hui que des fonctions relatives, des attributs du même radical. Elles ne sont plus que des servantes empressées du processus de consommation du monde par le sujet, au profit de son intérêt égoïste, ce processus absorbant intégralement le sujet, au point qu'en définitive, il n'est plus que cette passion. Ce caractère relatif de la valeur et de la vérité, réduit désormais à la simple dimension d'outils techniques dépourvus de toute portée en soi, fonde le nihilisme de l'homo occidentalis contemporain. Celui-ci est désormais incapable d'approcher la valeur vraie des êtres et des choses. Il est incapable de concevoir que ces êtres et ces choses soient porteurs en eux-mêmes d'une lumière, d'un absolu, indépendant du regard intéressé de consommateurs que le sujet porte sur eux.
il est incapable de considérer qu'un coucher de soleil en été soit beau en soi, d'une infinie beauté, ou bien qu'un principe, une idée, suscite un attachement sans mesure, purement désintéressé, précisément parce que ce principe, cette idée, n'offre rien d'autre que l'essentiel, la lumière brillante de l'absolu. Hors du processus de consommation du monde, l'homo occidentaliste ne voit rien et ne sait rien. Il se condamne donc à ne plus pouvoir saisir la vérité et la valeur qu'à partir de ce processus, nommant en vérité tout ce qui va dans le sens de celui-ci, de son extension et de son intensification, nommant valeur la traduction économique exprimée en termes de prix de ce processus. Il existe cependant une différence, ténue mais réelle, entre l'ordre de la valeur dans le champ de l'économie et l'ordre de la vérité dans le champ de la philosophie et de la métaphysique. Nous sommes aujourd'hui parvenus à un degré extrêmement élevé d'immersion existentielle dans le processus de consommation du monde, où se mêlent simple accoutumance, volonté d'imiter le voisin et conviction idéologique que ce processus est, non pas le meilleur, mais le seul. En conséquence, nous ne parvenons même plus à concevoir que la vérité soit autre, radicalement, qu'un simple outil technique au service de la consommation. Pour nous, il n'est plus d'autre existence concevable, puisque depuis toujours et pour toujours, la vie est une course à la consommation. Simplement, les générations nous ayant précédés ne le savaient pas encore. Il nous est donc impossible de poser la question de la vérité entendue dans son sens profond, métaphysique, du système existentiel qui est le nôtre. Comment le pourrions-nous, du reste ? Puisque pour nous, la vérité n'est et ne peut être ni profonde ni métaphysique. En revanche, parce que notre système économique fait moins intimement corps avec nous, il nous est encore possible, en de brefs moments, de ressentir que, pour le dire de manière un peu simple, quelque chose ne va pas dans notre mécanisme de valorisation économique des biens, que le prix de tel ou tel actif n'a plus aucun sens. Nous ne savons plus bien quelle est la juste valeur de cet actif, mais nous sentons intuitivement que sa valeur formelle, officielle, authentifiée par un prix, ne saurait être cette juste valeur. De tels moments où les masques tombent sont rares et fugitifs. Ils correspondent souvent à l'amorce de phases de crise économique, particulière ou bien générale, parce que le regard soudain dessillé sur la valeur s'accompagne d'un mouvement de peur, semblable au vertige ressenti au spectacle du vide, et conduit à se défaire précipitamment, et quel qu'en soit le coût de l'actif en cause, jusqu'à la disparition, enfin, de cette insoutenable distorsion entre la valeur officielle, dont on perçoit soudain toute l'effrayante artificialité, et le ressenti de la valeur réelle, irréfutable, du bien. À travers ce bref et lucide regard, l'économie contemporaine nous rend son meilleur et plus paradoxal service. Alors que nous avançons dans l'existence comme des somnambules, convaincus que les choses n'existent qu'à partir de la consommation que nous pouvons en extraire, l'économie contemporaine, dans les moments où elle se dénude, nous rend le service inestimable de voir, voir simplement, voir soudain que le monde, ce n'est pas cela. À travers elle, nous percevons enfin que le monde n'est pas le simple support de nos désirs narcissiques. Il a une valeur en soi, autrement dit, une vie propre, vers laquelle nous devons aller, sans attendre qu'elle vienne à nous pour se soumettre à la mécanique de nos désirs. L'économie contemporaine est ainsi, et je terminerai par là, dans ces moments de crise, et pour retrouver le commencement de notre propos, cet instrument très paradoxal de salut, qui, en nous révélant, comme malgré lui, ses secrets de fabrication, nous offre la possibilité, qui est peut-être l'ultime possibilité de dévoiler notre nihilisme, cette prison que nous avons construite nous-mêmes, dont nous avons jeté la clé et que nous confondons désormais avec notre conscience. Je vous remercie.
Eh bien, merci pour cet exposé qui semble n'avoir laissé personne indifférent. Nous avons quatre questions pour commencer à ce sujet. Le premier à s'être signalé étant M. Jacques de la Rosière.
Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est une communication très riche qui nous a été donnée. Et je voudrais insister sur quelques caractéristiques qui ont été évoquées par le communicant et qui sont au cœur de la problématique économique et financière actuelle. Le premier point qui a été développé, c'est la différence, la divergence croissante entre la valeur, d'une part, qui représente quelque chose de concret et pendant très longtemps a été assimilé au travail humain, et d'autre part, le prix de marché. Et je voudrais ici indiquer le résultat d'une recherche qui a peut-être été exploitée par le communicant, je n'en sais rien, mais ça vient de sortir du cabinet McKinsey. Et c'est une étude sur l'évolution du bilan agrégé, du bilan global de notre monde. En d'autres termes, au lieu de se concentrer sur la comptabilité nationale, qui est une comptabilité de flux qui mesure l'évolution de la production au cours d'une période donnée, McKinsey a voulu regarder l'évolution sur une vingtaine d'années du bilan, c'est-à-dire de la valeur des actifs et des passifs des différents agents économiques depuis une vingtaine d'années. Et ce qu'il dit fondamentalement, ce rapport, c'est quelque chose qui est en harmonie complète avec ce que vous avez dit. Ce qu'il dit, c'est que la valeur du bilan sur 20 ans a triplé, alors que la valeur du produit intérieur brut a augmenté modestement. Et donc, il y a un écart fondamental entre la valeur du bilan, c'est-à-dire le prix des choses qui sont à l'actif et au passif des bilans agrégés, et la valeur fondamentale qui est beaucoup plus proche de la production. Ils ont, dans leur étude, signalé quelque chose qui est fondamental, mais qui n'est pas connu de notre société et de nos économistes, c'est que environ 75% de l'activité économique générale, celle qui se traduit par la production des usines, les gens qui vont au bureau le matin, etc., toute l'activité économique, eh bien, 75% du résultat de cette activité économique a été non pas dans la production et dans les salaires, et dans l'investissement, mais 75% ont été dans la valorisation des prix des actifs financiers. C'est exactement le thème que vous venez de traiter. Et c'est une considération qui devrait nous faire plus que réfléchir, elle devrait nous faire agir. Parce que le fait est que cette concentration des trois quarts de l'activité humaine dans l'augmentation des actifs financiers, cette considération doit se préciser en ce sens que qui a bénéficié de ces 75% de valorisation ? Environ 10% de la population. Donc, que 75% de l'activité économique est accru le prix des valeurs financières au détriment, il faut bien le dire, et McKinsey ne le cache pas, des 90% qui sont les salariés et dont la place relative a baissé pendant cette période, est quelque chose qui devrait nous interpeller en tant qu'Académie des sciences morales et politiques. Elle devrait nous interpeller parce que, d'abord, c'est évidemment wrong, comme diraient les anglo-saxons, c'est pas bien. Et deuxièmement, ce n'est pas durable, car les défis qui se présentent à l'horizon et qui sont ceux d'une transition énergétique qui permettrait d'échapper à l'étau du réchauffement climatique, ces investissements-là sont si importants en termes de quantité, supposent une telle mobilisation de l'épargne que on ne peut plus avoir un système qui est exclusivement axé sur la hausse de certaines valeurs financières au profit de 10% de la population. Il va falloir changer de modèle. Ça, c'est donc le premier point sur lequel je voulais apporter mon soutien, parce que l'étude de McKinsey est à prendre très au sérieux. Ce ne sont pas des idéologues, ce sont des gens très pratiques qui regardent les chiffres. Et le fait qu'ils disent ce que je viens d'énoncer dans un rapport très technique, qui est un rapport long, complexe, où il y a beaucoup de méthodologie, le fait qu'ils disent ça est déjà une sonnette d'alarme. Du même type, même si elle est fondée différemment du point de vue, je dirais, théorique que vous, elle est un avertissement. Et le deuxième point que je voulais indiquer corrobore ce que vous avez dit. Greenspan, le grand patron de la Federal Reserve américaine, disait qu'il ne savait pas reconnaître une bulle. Une bulle, c'est quand la valeur des actifs augmente tellement qu'on finit par être dubitatif sur leur valeur. On pense qu'elles s'éloignent de ce qu'on appelle les fondamentaux, qu'il y a un élément excessif. Alors Greenspan disait, moi je ne sais pas reconnaître une bulle, je ne sais pas quand une valeur est excessive, je ne sais pas. Et plutôt que d'agir par une politique monétaire plus rigoureuse, si j'ai le sentiment que les bulles augmentent et que ces excès de prix dans les valorisations financières deviennent dangereux, si préventivement je durcis ma politique monétaire pour parer au danger de cela, j'aurai un résultat sur la réduction de la demande et en particulier de la consommation, alors que je ne sais pas absolument si je dois intervenir parce que je ne suis pas capable de mesurer la bulle. Il disait ça. Et un beau jour, devant l'ampleur des hausses de marché dont il était le spectateur, puisqu'il n'avait pas voulu agir préventivement, il a fini par dire que ces hausses de valeurs financières sur les marchés étaient absurdes. Et évidemment, il y avait une contradiction entre la reconnaissance de cet excès, de cette absurdité d'une part, et d'autre part, l'impuissance qu'il se reconnaissait à reconnaître l'existence d'une bulle. Une bulle, c'est exactement ce que notre intervenant a expliqué. Une bulle, c'est une hausse de valeur, ça peut être immobilier, ça peut être financier, qui dépasse l'imagination qu'on peut avoir de cette valeur. Elle dépasse ce que les économistes modernes appellent les fondamentaux qui peuvent justifier un prix. Et l'immobilier est très souvent le phénomène qui retrace cet excès de valeur. Je vais vous rappeler qu'au cours de l'année 2021, qui n'est pas loin puisque nous sommes en 2022, quand vous regardez l'évolution du prix de l'immobilier en Europe, en France, aux États-Unis, vous voyez que la valeur du prix de l'immobilier a été, utilisons un terme compréhensible, phénoménale. Pendant ce temps-là, la valeur des loyers, qui est un assez bon signe de l'insuffisance de logements par rapport à la demande, les loyers n'ont pas bougé. Les loyers n'ont pas bougé, mais la valeur des immeubles a augmenté d'une manière phénoménale. Ça, c'est la bulle. Et la bulle, c'est que j'achète de l'immobilier, non pas que je sache que le prix très élevé auquel j'achète est le bon prix, mais je l'achète parce que je revendrai dans un marché qui est toujours porteur, je revendrai mon bien que j'ai acheté avec un profit. Autrement dit, c'est la perspective du profit que l'on fait, ce n'est pas la valeur de ce que l'on achète. Et le marché de l'immobilier est une manifestation qui n'est pas unique, parce que c'est vrai aussi pour le marché financier, mais c'est une manifestation de ce que vous avez dit. Et enfin, je dirais que je suis en accord avec vous lorsque vous avez dit que la décision du président Nixon le 15 août 1971 de défaire le lien qui existait entre le dollar et l'or a été un élément très important dans cette évolution que vous signalez sur l'évolution des prix face à ce qui serait une valeur. Et j'appuie ce point de vue parce que dans le système de Bretton Woods, il n'y avait en fait qu'une seule valeur. C'était la valeur du dollar. Parce que le dollar était la monnaie du système. Chaque monnaie individuelle était rattachée au dollar avec un taux de change fixe. Et ce dollar, qui était le pivot du système, n'était crédible que parce que on lui donnait une valeur or. Et le jour où les Américains ont augmenté leur dette à cause de la guerre du Vietnam d'une manière exponentielle, ils n'ont plus eu assez d'or pour rembourser les banques centrales qui avaient des excès de détention de dollars. Et ce jour-là, il a décidé de casser le lien entre l'or et le dollar. Et c'est de ce jour-là que la valeur externe des monnaies est devenue une affaire de marché. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé mon travail au Trésor, j'avais un diktat absolu. C'était la valeur externe du franc. Il fallait que la politique économique fasse en sorte que la valeur du franc soit stable. À partir du moment où on a arrêté le système de taux de change fixe de Bretton Woods, chaque responsable d'une monnaie nationale s'est dit « chic ». Alors, maintenant, je peux faire ce que je veux. Et j'ai qu'à emprunter, le marché est là, et la valeur de la monnaie n'est pas mon affaire, c'est la valeur du marché. Et c'est à partir de ce moment-là que le phénomène que vous avez très bien décrit dans votre communication, c'est-à-dire la liberté du prix, la financiarisation extrême qui finit par dicter les comportements, notamment de consommation, a commencé. Alors, je m'excuse d'avoir été un peu long, Monsieur le Président, mais c'est parce que, même si sur certains points, on peut ne pas partager la vision théorique qui nous est présentée, il reste des choses si fondamentales et qui, à mon avis, sont incompatibles si nous voulons une croissance future pour nos sociétés, nos petits-enfants, sont incompatibles avec ce qui se passe actuellement. Je pense que votre exposé est tout à fait remarquable. Merci, Monsieur le Président.
Si vous souhaitez répondre...
Mettez-vous au micro.
Oui.
Il s'est passé par ailleurs un miracle que je ne m'explique pas tout à l'heure, c'est que ma voix était plus chevrotante au début qu'à la fin, en fait. Donc,
Ça prouvait que j'étais convaincu par mon propos et que je sentais l'intérêt de la salle. Donc je crois qu'on dit la même chose hein, sur deux points. Moi, j'insiste sur deux choses. La première, c'est que ce désancrage, en fait, par rapport à toute réalité matérielle, me paraît être la condition pour que le système actuel, en réalité, continue de progresser. Alors, progresser au sens où, à mon sens, il va vers une crise qui est inévitable à un moment ou à un autre, mais se libérer de tout ancrage matériel et de toute référence matérielle, ça donne l'illusion, en quelque sorte, d'une liberté des acteurs économiques, d'une inventivité de la finance qui permet d'aller toujours plus loin. En réalité, donc, ça dessert, en tout cas à court terme, les contraintes qui pèsent sur notre système. Et puis après, j'étais sensible à ce que vous disiez des propos de M. Greenspan. Toute la difficulté, c'est quand on dit ça atteint des proportions irrationnelles, on ne sait plus dire par rapport à quoi, en réalité, c'est irrationnel. Quand on dit telle valeur a atteint un niveau qui est irrationnel, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ça ne peut plus être qu'une sorte de ressenti, en quelque sorte, mais qu'on est incapable de dire en réalité ça diverge dans de telles proportions par rapport à ça. Et donc, c'est toute la difficulté qui fait qu'effectivement, on finit par dire qu'il n'y a pas de bulle spéculative, puisqu'en réalité, je ne sais pas définir la référence, donc je ne sais pas définir par rapport à quoi on dérive.
Merci. Denis Kessler.
Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci de cet exposé qui est évidemment une attaque en règle contre la modeste profession que j'exerce. Et c'est dommage que le prix Nobel Jean Tirole ne soit pas là. Il était là ce matin, il n'a pas pu être des nôtres cet après-midi parce que j'aurais préféré qu'il s'exprime directement à la suite de votre intervention. Dire que l'économie, c'est la science du désenchantement est absolument inacceptable pour moi. Normalement, ça se réglerait par duel le long de la Seine. C'est l'absence d'économie est le désenchantement suprême. On le voit dès lors que l'économie ralentit, dès lors que l'économie dysfonctionne, dès lors que l'on a des problèmes graves, dès lors que le chômage progresse. Et là, c'est l'économie qui, lorsqu'elle ne marche pas, crée un désenchantement individuel, public, social, politique, absolument terrible. Donc, j'inverse votre proposition. Alors, si on va jusqu'au fond, je crois qu'il y a la distinction valeur et prix. Quand j'étais enseignant, je passais des heures et des heures à enseigner ça, mais le débat n'est plus là. Dans l'économie moderne, on ne passe plus notre temps à distinguer formation des valeurs, formation des prix. Je crois qu'il y a un consensus très large maintenant pour dire simplement que l'économie, c'est la science des moyens. C'est la science des moyens. Donc, ne lui prêtez pas des intentions qui ne sont pas celles de l'économie. Vous me donnez un problème, je résous le problème. Comment obtenir un objectif en minimisant les coûts de production, les intrants, l'énergie, le travail, l'utilisation de la terre, que sais-je encore. Donc c'est la science des moyens, c'est toujours la même chose, optimiser, maximiser, minimiser. Je ne connais pas d'autres sciences économiques que celle-ci. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas une fin en soi. Jamais un économiste dit que c'est une fin en soi. C'est une grave erreur, c'est un moyen. Le marché n'a aucune intention. Vous avez donné des tas d'intentions au marché. Le marché n'a pas d'intention. Je ne crée pas d'intention au marché en tant que tel. C'est un mécanisme. Un mécanisme n'a pas d'intention. Vous lui donnez une personnalité morale, ce n'est pas une personnalité morale. L'état moral, immoral, tout ce que vous voulez, mais ça ne demande pas personnalité morale. Le marché n'a pas de volonté. Une volonté, c'est un être qui a un projet politique, une intention, et qui met en œuvre un programme pour pouvoir le réaliser. Je n'ai jamais vu un marché qui a une volonté. Donc, je crois que c'est là, sans doute, la grande différence entre vous et moi. Les gens ont des préférences. Ces préférences sont des données pour l'économiste. De gustibus non est disputandum. On a des préférences, un taux d'impatience fort, d'autres ont un taux d'altruisme élevé, le troisième aura un taux d'aversion au risque extrêmement faible. Une fois que c'est donné, la science montre comment ces différentes, la science économique, comment ces différentes préférences vont interagir pour pouvoir réaliser ce que eux souhaitent, leurs préférences. Les préférences ne sont pas données par l'économie, les préférences sont intrinsèques aux individus. Donc, quand on revient à ces données fondamentales, toute votre dissertation sur la différence entre les valeurs, l'absence de valeurs, la critique de la consommation, je ne les comprends pas. Alors, une vraie question, c'est la formation des préférences. Mais ça, c'est le rôle du psychologue, du sociologue, de toutes les sciences qui essaient de savoir pourquoi ces préférences sont différentes d'un individu à l'autre ou d'un acteur économique à un autre. Et je respecte fondamentalement ceci, puisque ceci ne relève pas de l'économie, qui sont des données, qui nous sont données, et donc des inputs, comme je dirais, et non pas l'output. La fonction d'utilité sociale est également une donnée. Résultat de la démocratie, de l'expression des oppositions, on aboutit à une fonction d'utilité sociale qui varie dans le temps en fonction des forces politiques. Une fois que vous m'avez donné la fonction d'utilité sociale, j'ai essayé de faire en sorte que pour atteindre le maximum de cette fonction d'utilité sociale, on utilise les meilleurs moyens, encore une fois, dans un souci d'économiser les ressources disponibles de la nation. Donc l'économie, c'est une science d'allocation des ressources, mais ce n'est pas une science des fins. La science des fins, il y a dans cette salle et dans cette académie des philosophes, ça c'est les fins. Il y a des gens qui ont une conception de la religion, ce sont les fins. Il y a des gens qui ont fondamentalement un raisonnement sur les fins, et ce n'est pas mon rôle à moi. Et je ne veux pas de ce rôle, parce que je serais totalement incompétent, et ce n'est pas ce qu'on demande. Donc je trouve que d'accorder la science des fins à l'économie, c'est nous faire un immense cadeau dont on ne veut pas. Je ne veux pas avoir à discuter des fins. Les fins relèvent d'autres disciplines qui sont en amont ou en aval de ma question. Sciences politiques, j'ai dit métaphysique, sciences morales, sciences religieuses. Et là, chaque citoyen peut avoir sa propre conception du monde. Et on va les opposer, peut-être, de temps en temps les confronter. Donc, quelque part, votre espèce de postulat sur lequel l'économie discute des fins est, à mon avis... Toutes les institutions, après, vont cadrer ces oppositions. On connaît les limites du marché. Jean Tirole a écrit des pages et des pages, l'asymétrie d'information, les problèmes de concentration, de monopole, tout ce qu'on veut. Bon. Mais les institutions... Et il y a des biens qui sont des biens publics et des biens communs qui permettent effectivement d'échapper à l'opposition dans laquelle les individus ne cherchent que leur propre consommation et n'ont aucun souci de temps en temps de la coordination de leur activité dans un sens d'une utilité collective. Donc voilà, pour ça que je réagis très vivement, parce que je pense qu'il y a une erreur sur ce dont vous parlez. L'économie dont vous parlez n'est pas celle qui est à l'heure actuelle ce qu'on appelle science économique, qui est une science qui a ses postulats, qui a ses principes, ses démonstrations, et qui relève effectivement de ce que je disais, la science d'allocation des ressources rares, de toutes les ressources rares dans une nation. Moi aussi, sur des sujets, je me souviens un passage de Freud qui disait la consommation, c'est la diarrhée et l'épargne, c'est la constipation. Bon, phrase célèbre, j'ai longuement réfléchi à ceci, mais ça ne m'aboutit pas à grand-chose pour qualifier l'économie et de savoir quel est le taux optimal d'épargne ou le taux optimal de la consommation, c'est un autre sujet. Donc je terminerai en disant, il y a quelque chose qui me chipote beaucoup, vous avez pu comprendre, de dire que l'économie, c'est le désenchantement, mais c'est le moyen, au contraire, qu'on a trouvé dans l'histoire qui permet aux gens d'améliorer leur niveau de vie, leur niveau de bien-être, et peut-être de consacrer du temps à des questions philosophiques, métaphysiques, fondamentales, parce qu'ils sont libérés du besoin matériel. C'est quand ils étaient obsédés par le besoin matériel, sans économie, que, à mon avis, les choses étaient en dessous de la façon... Voilà pourquoi... Puis vous avez dit une dernière phrase qui m'a heurté, et j'arrêterai là. Vous avez dit à la fin, pour nous, je ne sais pas qui nous, je pensais vous, peut-être nous, la vie est une course effrénée pour la consommation. Vous n'auriez pas dû dire ça en ce lieu. En ce lieu, non. Je pense que la vie est autre chose qu'une course effrénée pour la consommation. Je crois que nous avons tous démontré, essayé de démontrer que nous avons une réflexion et que cette réflexion va au-delà d'un caddie dans un supermarché. Je vous remercie.
Quand je dis que c'est une science du désenchantement du monde, c'est pas un jugement de valeur. Hein. C'est pas, je dis pas que ça veut dire que c'est mal en soi. Je dis que c'est une science qui apprend théoriquement à penser le monde, on va dire froidement, en quelque sorte, par rapport à d'autres représentations. Ça a pas de je dirais, ça a pas de valeur de dénigrement de l'économie. Et je voudrais pas que là-dessus il y ait un malentendu. Après, je pense qu'il y a une divergence de fond entre votre approche et la mienne. Effectivement, vous percevez l'économie, me semble-t-il, comme une science positive, en quelque sorte. Moi, je pense que notre économie contemporaine est gouvernée par un arrière-fond métaphysique, idéologique, qui fait que ce n'est pas un objet neutre. Et vous dites, l'économie, ce n'est pas la science des fins. Quand la finalité humaine se réduit à consommer, on est quand même bien proche d'une interrogation sur les fins. Alors, par ailleurs, je termine en disant que mon propos, c'est évidemment pas de dire que chacun d'entre nous, ici présent, est obsédé par le fait de consommer le monde. J'essaie de définir juste un modèle opératoire pour essayer de comprendre les grandes tendances de fond de notre société. Bien sûr qu'à 100% des cas, 100% des personnes, dans 100% des circonstances, ne sont pas dans une logique de consommation. Je décris simplement, me semble-t-il, ce qui paraît être une tendance forte, déterminante de notre société et de notre époque. Voilà, c'est juste pour éviter ce côté un petit peu caricatural.
Bien, monsieur le grand rabbin Corsia.
Merci beaucoup, monsieur le président. Après l'homélie de notre ami Denis Kessler, ça va être difficile de reprendre le cours des choses, même si... sur le fond, je partageais ce refus d'être dans une société caricaturale parce que je ne crois pas, malgré la tenue de votre exposé, je ne crois pas que ce soit un tribut payé à la modernité. Je crois que fondamentalement, l'humain a besoin de désir. La meilleure des preuves, c'est que lorsque les Hébreux sont dans le désert, nourris par Dieu, portés littéralement par Dieu, ils demandent de la viande, et regardez bien le texte du livre des Nombres, ils ont désiré des désirs. Ils n'ont rien désiré, ils ont juste voulu avoir quelque chose. Or, tous les systèmes dans l'histoire depuis, y compris... ceux qui étaient il y a à peu près 80 ans, 70 ans, 60 ans à nos portes, qui ont voulu répondre à tous les besoins des personnes en disant ben, il n'y a qu'un seul modèle, c'est simple, ont créé du non-désir, c'est-à-dire une forme de pulsion de mort. Or, la recherche, non pas de consommation, mais la recherche de désir, c'est au cœur de la vie. C'est le psaume 20, verset 5, et je le dis en hébreu, pour notre bon président. Alors, j'y vais. Iten lecha qu'il va vecha. L'Éternel te donnera comme les désirs de ton cœur. Parce que oui, il y a des désirs. Je pense que cette logique que vous présentez comme étant finalement créatrice de bulles, alors c'est étrange que le directeur des finances publiques de la Marne parle de bulles. Là, vous êtes quand même bien mieux placé que Greenspan pour savoir ce qu'est une bulle. Facile, mais vous savez, vous, qu'à 50, voire à 20 mètres près, un hectare de terre vaut 1 million d'euros ou vaut 20, 30 000 euros. À 20 mètres près, parce qu'il est dans l'appellation ou pas dans l'appellation. Ça aussi, c'est quelque chose qui ne répond à rien. Or, si on reste dans le principe qu'on ne doit pas céder à une sorte de pulsion de vouloir... des désirs, vous appelez ça des objets, moi j'appelle des désirs. Vous avez parlé des téléphones, vous avez parlé de choses. Moi je vous poserai une question simple. Quelle est la marque de votre cravate? Quelle est la marque de votre montre? On cède tous à une sorte de désir d'un objet quel qu'il soit et on se donne les moyens de pouvoir acquérir cet objet. Et si c'est au-delà de nos moyens, moi je rêverais d'avoir un Rothko, eh ben, je ne peux pas me payer un Rothko. Eh ben, je m'offre un livre sur Rothko. C'est très bien aussi. Mais donc en fait, on se donne les moyens ou on n'a pas les moyens de répondre à cela. Maintenant, ce que vous appelez, vous, une bulle spéculative, je pense que oui, c'est ce que vous avez décrit de manière amusante dans Astérix, dans Obélix et compagnie. Mais quand Caius Sogronus organise en fait une bulle spéculative autour des menhirs, c'est pour faire chuter la société. C'est pas comme une sorte de volonté collective d'établir un prix en fonction de la rareté des objets, ce qui est un mécanisme économique simple. Moi, je reviens et je voudrais conclure là-dessus. Juste une parenthèse. Pardon. Lionel Messi, c'est scandaleux parce qu'il n'a rien fait derrière et qu'on a perdu la Coupe d'Europe. S'il avait bien joué, marqué et qu'on était encore qualifié pour la Coupe d'Europe, personne ne parlerait du prix où on a payé Messi parce qu'on s'en fout complètement. En réalité, si on paye, le club paye ce prix, c'est que les droits TV, les droits dérivés autour du football amènent cette capacité de financement. Donc, vous voyez, ce n'est pas un prix arbitraire qui est une forme de course folle. C'est simplement qu'à un moment, il y a un équilibre entre l'offre et la demande, encore une fois, comme aurait dit notre éminent confrère, une loi économique qui établit la possibilité pour chacun de faire les choses. Et si j'ai parlé de la Bible, c'est parce que j'ai la conviction que si vous interdisez ces désirs, non pas que vous rendez la société morne au sens que tout le monde aura la même chose et donc il n'y a plus de volonté de distinction, mais en fait on revient à l'inverse de ce que vous préconisiez quand vous dites, quand vous compariez le prix d'un coucher de soleil. Vous auriez pu rajouter sur la baie d'Along, c'est magnifique, mais la réalité c'est que personne ne pense à monétiser ça, que personne ne conteste qu'il y ait des choses dans la vie qui ont un prix infini puisqu'ils n'ont pas de prix. Mais je trouve que considérer que Delenta Carthago Est, tout est foutu parce que maintenant il n'y a qu'une course au prix, peut-être certaines choses sont chères. La réalité, c'est que nous sommes tous des acteurs de cette volonté d'avoir quelque chose qui à la fois nous distingue et nous corresponde, qu'à un moment, on va le payer parce que ça fait partie de la façon qu'on a de combler le désir de désir. Parce que je vous dis, dès les psaumes, Dieu nous dit « Je vais remplir tous les désirs de votre cœur ».
Oui, je voudrais répondre sur ce point. Ce n'est pas du tout une critique du désir, ma thèse. En fait, c'est, je pense que l'homme est un être de désir, que donc c'est absurde de critiquer le désir en soi. Là où, à mon avis, un renversement s'opère, et en particulier à notre époque, c'est que, en fait, au lieu d'être désir restant désir, ça se cristallise désormais dans la marchandise. Et c'est la marchandise qui devient notre obsession. Vous avez évoqué les textes sacrés tout à l'heure. Pour moi, on est clairement dans un phénomène d'idolâtrie à travers ça, en fait. On idolâtre, en réalité, le téléphone portable qu'on achète. On idolâtre pourquoi ? Pas pour le téléphone portable, mais parce que dedans, on espère trouver un salut et un sens à l'existence. C'est ça que je condamne. C'est pas du tout le désir. C'est pas du tout le désir en tant que tel. Après,
pardon, oui, de reprendre la parole. On l'idolâtre tellement peu qu'on le prend et qu'on le jette et qu'on en prend un autre.
C'est vrai, mais c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure dans la course à l'hystérie de la consommation. C'est-à-dire on idolâtre un très bref instant et puis on s'aperçoit que ça suffit pas. Donc on recherche une autre idole. Ça, c'est ma perception des choses. Deuxième point sur Lionel Messi. J'aime bien le foot, hein, en plus, au demeurant. Mais c'est là qu'on diverge. Je trouve que même si Messi avait qualifié le Paris Saint-Germain contre le Real de Madrid par un but magnifique marqué à la 92e minute, on pourrait se poser la question de l'indécence de la somme qui est payée. Moi, je me la pose en tout cas.
Merci. Jean-Claude Casanova.
Merci, Monsieur le Président. Nous avons passé la matinée à faire de l'économie approfondie et nous en cet après-midi un autre type d'économie. Et j'aurais une question et une suggestion à vous faire après votre exposé, très intéressant. Vous êtes agrégé de sciences sociales, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait l'ENA, vous avez eu beaucoup de professeurs d'économie et je serais étonné qu'ils vous aient enseigné ce que vous avez dit. Mais vous avez votre économie à vous. Et je vous en félicite. Alors, ma question est la suivante. Vous dites, la valeur n'est pas le prix. Bon, on peut dire que le prix est une forme de valeur, mais qu'il y a d'autres formes de valeur. Mais vous dites, la valeur n'est pas le prix. Donc, vous avez une définition de la valeur, mais vous ne nous l'avez pas donnée. C'est-à-dire que la valeur, c'est nécessairement la qualité d'un bien et d'un service. Comment la définit-on ? Quelle est la définition précise ? Et peut-on la mesurer ou non ? Est-elle subjective ou objective ? Bon, moi, je vous conseille de ne pas rester dans cette voie et plutôt d'accepter la pluralité des valeurs. C'est plus simple, c'est-à-dire que d'un côté,